Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
J'ai pas de Jonathan Roy à lui offrir pour lui remémorer l'excellent moment qu'il a passé avec Audrey Pinchot et Véronique hier dans Gravel dans le retour. J'ai pas non plus de Sarah Dufour pour lui faire vivre sa propre médecine en ondes. Mais j'espère que tu vas bien quand même. Salut, Denis Gravel.
Ça va très, très bien. Merci. Jonathan Roy qui était là à ce même micro où je suis présentement. Beaucoup moins de sex appeal. Qui en avait hier.
On le dira nous autres, tu comprends, là. Juste qu'on peut, on peut ne rien dire puis insinuer. Sauf que j'ai demandé à Audrey si elle avait changé la moumoute, le puffer du micro. Elle m'a dit non. J'ai dit, ah, t'as l'impression de le frencher encore à chaque fois que tu parles dedans.
Écoute, vive la radio, hein. C'était un moment qui était complètement impromptu, qui était complètement pas prévu. Jonathan Roy qui était dans le lounge pour faire une entrevue et une prestation du côté de Weekend. Et avoir la réaction d'Audrey quand on lui a dit que Jonathan Roy était là. Là, elle est venue rouge foncé, elle a recommencé à mettre ses souliers parce qu'elle se promenait nu bas. Puis là, elle essayait de trouver le courage d'aller chercher de l'eau et peut-être de dire bonjour à Jonathan Roy.
Elle n'avait pas soif, là. Elle n'avait pas besoin de verre d'eau, elle me l'a avoué.
Là, on est entré en onde, puis moi, j'ai décidé d'adresser l'éléphant dans la pièce. Puis là, je me suis dit, bon, bien, on va laisser Audrey sortir puis dire bonjour à Jonathan. Puis elle voulait pas y aller. J'ai dit, bon, ben, on va aller chercher Jonathan d'abord.
Mais mettons qu'Audrey n'avait pas viré complètement rouge, là, puis être un peu en pamoison envers Jonathan Roy. Est-ce qu'il aurait passé sur les ondes de boulevard?
Non. Non, mais le pire, c'est qu'on avait comme un historique de rendez-vous manqué avec Jonathan Roy parce que quand il avait fait un show à l'entracte du... comment on appelle la classique Patrice Bergeron, là, le match de hockey où les vedettes de la Ligue nationale viennent.
Le classique hivernal.
C'est le Canam quelque chose, là, j'oublie le nom.
Pro-Am.
Le Pro-Am, merci. Le
hey,
Pro-Am.
Jamais j'aurais pu gagner un quiz de même.
Le Pro-Am qui était jadis le Pro-Am gagné Bergeron. Jonathan Roy avait donné un show sur une des coursives de l'aréna pendant l'entracte. Puis moi, j'avais jamais entendu Jonathan Roy en prestation. Puis il m'avait scié, Jean. Puis je l'avais dit en onde. J'ai dit tabarnouche. Je pense que j'ai un man crush.
Tout le monde riait de lui au début. C'est quand même
absolument
une belle leçon de vie, le gars. Je veux dire, et j'ai ri, oui, physiquement, mettons, de tout ce que tu veux comme jeune femme en pamoison envers les joueurs de hockey quand t'es jeune. Fils de Patrick Roy.
Ben oui.
Je veux dire, vedette par son père à la base, parce que ça n'a pas été nécessairement le meilleur joueur de hockey qu'on a connu.
Ben
non
écoute, il est devenu tristement célèbre en se battant au milieu de la glace contre le gardien de but des Saguenayens de l'époque, Bobby Nadeau.
Exact.
Puis après ça, quand on a su qu'il réorientait sa carrière pour la chanson, puis il avait déjà fait des enregistrements sous le nom de Da King Joe. Fait qu'évidemment, on riait de ça, nous autres, au début. Mais il aura confondu les sceptiques, puis ce gars-là, tu peux pas y enlever la présence et le magnétisme qu'il a. J'ai reçu beaucoup d'artistes que j'aime dans le studio de Boulevard. Jay Scott, Sarah Dufour, Pascal Picard qui était venu me faire du Pink Floyd pour ma fête. Ça, c'est la meilleure performance que j'ai eu la chance d'avoir. Puis ça faisait, je parlais de rendez-vous manqué, là. C'est que plusieurs fois, on a voulu avoir Jonathan Roy en prestation. Puis ça fonctionnait jamais. Ah, il a mal à la gorge. Ah, finalement, c'était par téléphone. Puis il avait
peur d'Audrey. Il ne savait pas comment ça allait se passer.
Il y avait un historique de rendez-vous manqué. Fait que là, quand j'ai vu que le producteur nous l'amenait en studio puis qu'il avait son musicien avec lui, son guitariste, ben je me suis dit, moi, j'y demande rien, tu sais. Puis finalement, c'est venu de lui. Jonathan a offert de nous faire sa toune live. Fait que là, on s'est guéré vite, on a placé le micro et on a regardé Audrey pleurer pendant 3 minutes et demie. C'était... c'est les moments que j'apprécie le plus en radio. Puis c'est ce que je disais à Audrey hier. J'ai dit, celle-là, dans 10 ans, je vais m'en souvenir encore.
Puis je disais à Audrey dans l'open mic qu'on a un privilège puis on a un honneur, en fait, parce que peu importe... Quand les gens te suivent depuis un bout à la radio puis décident d'écouter l'émission, ils te font confiance sur ce que tu vas amener comme sujet. On va souvent vouloir, et même, je veux dire, des fois, se battre un peu trop pour aller dans les sujets que l'on catégorise comme étant typiques de notre auditeur type.
Okay? Ben, je m'enlignais. Tu sais, carte sur table, je m'enlignais pour parler d'Amazon puis du premier ministre, puis faire un 20-25 minutes là-dessus en table ronde
normal.
Avec les filles. Amazon a pris le bord. Jonathan Roy est venu en studio, puis on a fait autre chose, puis on a profité de la chaleur du moment.
Puis les auditeurs, fort probablement, voulaient vous entendre parler des enjeux de la journée. La seule chose qui vous ont fait confiance, parce que il y a beaucoup d'auditeurs qui ne connaissaient pas Jonathan Roy, qui n'en avaient rien à faire, pas méchamment, mais c'était pas quelqu'un qui allait découvrir dans les prochains mois, prochaines années, qui n'avait pas tant tendu l'oreille, mais parce que vous les avez amenés à écouter ça, ils remerciaient ce matin. Puis je trouve que c'est une belle leçon sociétale et d'ouverture.
Ouais.
Parce qu'on parle souvent d'être dans la même salle que tous ceux qu'on connaît, qui disent la même chose que nous, qui pensent la même chose que nous, autant sur Facebook, ses réseaux sociaux, sur... Puis de se dire, pourquoi pas être une fois de temps en temps un peu plus curieux, puis tendre l'oreille envers des gens qu'on a confiance quand même, où le débat est ouvert, où le sujet est ouvert, puis d'essayer de s'asseoir, là, rien dire, puis entendre. Mm. Puis là, c'est avec la musique que ça s'est passé hier, ben, mais ça pourrait se passer à bien d'autres niveaux.
C'est que la radio permet ça. Tu peux pas faire ça en télévision. Tu as des équipes techniques, tu as des fiches, tu as des affaires, des réalisateurs, puis ainsi de suite. La radio, tu peux te virer sur un 10 cents puis faire complètement autre chose. Mm-hmm. Puis souvent, c'est les auditeurs puis les émotions vécues autour de la table qui vont te diriger. Puis c'est un peu ce qui est arrivé hier. C'est un heureux concours de circonstances. Puis pour en revenir à la prestation de Jonathan Roy, moi, j'avais écouté beaucoup de prestations live après l'avoir vu justement à Game de hockey avec mes gars. Puis je me disais, tabarnouche, non seulement ce gars-là a un réel talent, mais j'ai eu la chance une couple de fois dans ma vie de voir des shows que je me dis, ça, tout est là, là, ça peut devenir un acte international demain matin. Faut juste que le feu pogne. J'ai eu la chance de voir le premier show de Simple Plan sous le nom de Simple Plan au pub de l'Université Laval. Je savais pas c'était qui. Je savais juste... Il était en première partie de Hurley Peace.
T'as étudié à l'Université Laval ou t'allais juste boire de la bière?
Je suis allé avec ma blonde de l'époque, une certaine Véronique Bergeron, qui étudiait à l'Université Laval. c'est ça, elle. Nous autres, on était là pour aller voir Hurley Peace. Puis il y avait ce band-là en première partie. Puis on regardait ça. Puis tabarnouche, ils sont donc bien bons. Puis les harmonies vocales, le groupe est tight, puis tout. Puis après le show, moi, j'avais ma veste de station de radio sur le dos. Il y a quelqu'un qui vient me voir et dit « Hey, salut, c'est Pierre Bouvier. J'étais sur la scène tantôt. » Il dit « Hey, tabarnouche, vous êtes bon? C'est quoi qui arrive? »« Ouais, ben là, on vient de changer de nom, puis on va produire notre premier album, puis là, on travaille avec des légendes du punk, puis on pense que ça va être gros, puis tout. Puis, tu sais, c'est mon démo. » Fait que je suis parti avec une cassette de Simple Plan.
Que Pierre Bouvier t'a donné.
Que je suis allé porter au directeur musical de l'époque. L'autre fois que c'est arrivé, c'était au défunt Liquor Store. Il commençait à avoir un hit. Puis c'était même pas à grandeur du Canada, c'était ici à Québec. C'était Billy Talent. Mm. Billy Talent avec Try Honesty qu'on avait reçu en concert privé.
Wow.
Puis je les avais rencontrés parce que dans ce temps-là, je présentais les shows là, t'sais, sur scène. Fait que j'allais voir le band un petit peu au début quand il... me donnait la permission.
C'est devenu ermite quand? C'est un autre.
Mais ça, écoute, ça faisait partie du travail, là, puis je faisais de l'angoisse deux semaines avant d'aller présenter des bands sur une scène.
Mais
j'ai
Billy
toujours
Talent.
Détesté faire ça. Mais Billy Talent, on les connaissait pas à l'époque, puis tu rentres dans la loge, puis t'as des petits garçons gênés, polis, réservés. Hey, salut, comment ça va? Hey, c'est le fun que vous veniez, puis hey, c'est le fun, merci de l'invitation, la station de radio, puis tout. Je m'en vais, je dis, OK. La musique est énergique, mais je sais pas de quoi ce qu'ils vont avoir de là sur un stage. Ils sont ben trop gentils, puis ils sont ben trop polis, ces enfants-là. Ils arrivent sur la scène, c'était plus les mêmes, là. Ils sont tous devenus des démons, ils sont devenus des bêtes de scène. Puis quand tu sens cette énergie-là, t'es reconnaissant d'être là, puis t'es reconnaissant d'avoir vécu ça.
Ça, Jonathan Roy, t'as fait vivre ça?
Oui, puis je pense que ce gars-là a tout ce que ça prend. Il y a la production, il y a l'équipe technique, il y a les musiciens, il y a le talent, il t'a toute une voix.
Mm-hmm.
Puis je veux dire, ici, là, quand il y a une performance, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de faux fuyant.
On joue pas avec la voix.
Non, c'est la voix crue, nette, pure. Surtout dans des circonstances comme ça, je veux dire, il n'était même pas supposé venir faire une tournée. Et finalement, ça a donné ce moment-là. Puis je pense que les auditeurs l'ont apprécié. Puis même des gens, justement, que Jonathan Roy fait pas partie de leur discographie. Il vivait par Audrey qui vivait, écoute, le moment de sa vie, peut-être, là, était assis.
Mais j'en souhaite d'autres quand même, là, le moment de sa vie.
Non, mais écoute, je comprends. comprends tellement bien ce sentiment-là parce que je suis exactement comme Audrey avec les gens que j'admire. Mes entrevues les plus pourries de ma vie, c'est avec des gens que j'aime trop parce que je suis pas capable de me doser, puis je suis nerveux, puis je suis pas capable, bref. Puis même, j'ai sauté des opportunités de parler avec des artistes ou des musiciens que j'aime parce que j'étais trop nerveux. Donc, je sais très bien c'est quoi pour elle, que c'était pas organisé, c'est pas prévu. Elle est assise où est-ce que Jacinthe-Ève est présentement, puis Jonathan, il est là comme ça à côté, puis il chante.
Elle a pleuré.
Je comprends les émotions.
Quand elle chante pas, elle avait juste parlé. Elle est tellement douce, elle est tellement belle. Allez voir ça, en fait. Ça a été mis aussi sur la page Facebook.
C'est un beau moment.
C'est un beau moment, puis c'était vraiment, vraiment charmant de voir ça. Je sais pas, toi, qui te ferais, avant de passer au sujet vraiment moins charmant que Jonathan Roy puis Audrey qui s'est pivarde, mais Jacinthe-Ève, y a-tu une personne dans la vie qui te ferait flancher un peu?
C'est une bonne question.
À part François Legault, on le sait, là.
Avec son sens de l'humour du Canadien de Montréal.
Je pense que je serais assez nerveuse et impressionnée par Andrea Bocelli.
Ah ouais?
Oh,
ouais.
Ah, c'est un bon choix.
Avec sa prestance. Ouais. Oui, sa carreuse, c'est quelqu'un de très, très charmant.
Avec la puissance vocale qu'il a, ça se peut qu'on revole tout d'un mur, là, si jamais il se pointe en studio.
On
n'aura
pas le temps de le vivre.
Oui, c'est ça.
Je voulais vous dire qu'on passe à un sujet hautement qui est problématique, mais en même temps, on peut être confiant, peut-être envers le système judiciaire pour ça. Je vous dis 25 ans de pénitencier pour le violeur de Tinder. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça, c'est dans l'actualité depuis plusieurs heures. C'est la peine la plus sévère pour un violeur en série au Québec qui a été donné. Le gars s'appelle Samuel Modéry. J'adore dire le prénom, on va le dire au moins trois fois pendant le pit stop. Samuel Modéry, c'était lui, le violeur de Tinder. Je dis c'était parce que là, il a été condamné. Il va être derrière les barreaux pour 25 ans au moins parce qu'il a drogué et agressé sexuellement une dizaine de femmes. Ça, c'est pour celles qui ont levé la main puis qui ont décidé de participer au processus judiciaire parce qu'on le sait jamais au final dans ce genre de série-là de viol ou encore d'attaque contre la personne, s'il y en a qui ont jamais rien dit.
Puis c'est particulier dans ce dossier-là parce que c'est en fouillant son téléphone à lui qu'on a vu plein de vidéos et qu'on a constaté qu'il y avait plein de victimes. Et c'est le travail d'enquête qui a fait en sorte qu'on a réussi à rejoindre toutes les femmes qui ont été victimes, qui s'en souvenaient pas, qui n'avaient pas levé la main pour quelque raison que ce soit. Tu dis 25 ans, c'est la sentence la plus longue. Puis en même temps, si la commission des libérations conditionnelles le sort après 6 ans, ce ne sera pas une peine très longue. Puis ça, des histoires comme ça, on a vu beaucoup dans les dernières années où une commission des libérations conditionnelles a comme tous les facteurs. Il y a un facteur de risque élevé. Le gars n'a pas de remords. Puis on laisse quand même ces gens-là sortir. Et oh, surprise, le crime recommence. Agression violente de plus, un meurtre ou ainsi de suite. J'espère qu'on profite de sentences comme celle-là pour peut-être passer... Je comprends
pour l'appliquer à 100 %.
Je comprends le principe de la deuxième chance. Je suis relativement d'accord. Je comprends que les prisons sont pleines puis qu'il faut faire de la place puis que c'est peut-être rendu la priorité. Je peux comprendre ça aussi, mais dans des cas comme ceux-là, est-ce qu'on peut juste protéger les gens de lourds cas comme celui-là? Il y en a un qui a été déclaré délinquant dangereux là, cette semaine, dans l'histoire du viol du côté du London Jack, dans une salle de bain. Un gars qui était rendu à 99 infractions criminelles. On se demande comment on fait pour se rendre à 99 infractions criminelles. Le gars était au restaurant pour fêter le fait que pendant 40 jours, il n'avait pas fait de prison. C'était la première fois de sa vie que ça arrivait. C'est un peu particulier, vous me direz. Ça a pris tout ça pour qu'on déclare un gars délinquant dangereux. Est-ce qu'on peut ouvrir le spectre un peu, puis quand on tombe sur un violeur en série comme celui-là, peut-être lui donner le macaron lui aussi pour faire en sorte que la libération conditionnelle soit pas mal plus difficile à obtenir.
Oui, parce que les victimes dans ce cas-là, les 13 victimes, pour être exact, de Samuel Modéry, restent victimes. Là. Je veux dire, ils sortent, ces gens-là sont pas bien, elles sont pas bien à vie pour la suite des choses aussi. Il y a juste 30 ans, moi, je dis juste parce que je trouve ça quand même important de me dire, crime, OK, ça fait combien de temps que ça s'était perpétué, ces gestes-là? À quel âge ça a commencé? Pourquoi ça a commencé? Comment est-ce qu'un être humain peut dire, moi, je vais droguer quelqu'un pour l'agresser contre son gré et continuer après même une seule victime. Puis là où je veux vous amener dans la discussion, parce que les deux, vous êtes parents. Denis, tes parents, deux petits gars.
Oui.
Jacinthe-Ève, t'as des petits gars, des petites filles.
Oui.
T'en as 3 enfants. Ils ont des âges différents aussi. C'est ce genre de nouvelles-là frappe l'imaginaire parce que c'est un gars qui pourrait sembler comme un autre, dans le sens qu'il veut rencontrer des filles sur des applications. Tu sais, Max fait ça à longueur de journée, lui, notre collègue. Là. C'est zéro un lien avec l'agresseur en série de Tinder, en passant. Mais c'est une chose que beaucoup de gens font quotidiennement. Essayer de rencontrer, tenter sa chance avec un inconnu ou une inconnue. Des fois, tu dis, je veux pas aller au restaurant, c'est peut-être un budget, je vais l'amener à la maison. Il y a tellement de façons maintenant de rencontrer puis se mettre à risque là-dedans. C'est-tu quelque chose que vous abordez en ce qui concerne, oui, le respect sexuel, mais le respect de rencontre puis la sécurité avec vos enfants? Puis sinon, à quel âge vous allez le faire? Puis comment est-ce que vous allez vous assurer du mieux que vous pouvez en tant que parent que jamais un besoin quelconque prédomine sur la sécurité de quelqu'un d'autre?
Les miens ont 9 ans puis 11 ans. J'essaie d'aborder ces choses-là avec des trucs faciles à comprendre puis de pas trop aller dans le détaillé ou l'explicite. Là, mais j'en ai un, moi, qui a peut-être un problème de bulle. Il est très affectueux puis des fois, sans s'en rendre compte, il va rentrer dans la bulle d'un ami. Alors que le même a une bulle qui tient serré contre lui. Tu sais, il aime beaucoup aller vers les autres, il aime moins qu'on vienne vers lui. Puis j'ai essayé d'y expliquer que si tu veux garder ta bulle, il faut que tu respectes la bulle des autres et ainsi de suite. Je lui dis souvent qu'il faut faire partie des gentils. Mmh. Je lui dis souvent aussi qu'il faut respecter les autres personnes. Je dis très humblement que je ferais des nuits blanches d'angoisse si j'étais un papa de deux petites filles au lieu d'être un papa de deux petits gars. Puis je veux que mes petits gars fassent partie du bon monde puis des bonnes personnes, parce qu'on le voit, là, des gens qui virent tout croche. Mais j'ai des amis puis des collègues qui sont des papas de petites filles, puis je me dis, tabarnouche, quand ils arrivent justement à 12, 13, 14 ans, ça doit commencer à lui virer entre les deux oreilles quand ils lisent des histoires comme ça, puis comment tu peux en parler sans devenir le castrateur, mm-hmm. Là, tu sais, parce que des fois, ça a un effet...
Et paranoïaque, et donc faire devenir tes enfants paranoïaques quand tu la rencontre aux autres.
Puis ça peut avoir un effet inverse, ben oui, aussi, si t'es trop sévère, de dire, ah ben là, moi, je me rebelle, puis je fais mon adolescence, puis j'écoute
t'es
pas.
T'es pousses là-dedans, finalement,
c'est
à pas prendre...
C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Ils ont quels âges, à peu près, tes kids?
J'ai deux garçons en plein dans l'adolescence au secondaire, puis j'ai une fille de 18 ans. Oh. Alors, ça fait partie de nos discussions à chaque semaine, je dirais pas chaque jour, mais à chaque semaine, la prévention, faut en parler, puis il faut... moi, je trouve ça super intéressant parce qu'avec deux garçons puis une grande fille, on entend... Les deux entendent mon discours par rapport à quand ma fille sort, fais attention. Je le dis devant les garçons parce que je suis en train aussi de les éduquer,
ben oui,
par rapport à ça. Puis ils voient leur sœur qui doit être prudente, qui a déjà été témoin de différentes situations. La communication fréquente et ouverte sur ce sujet-là, elle est essentielle. Mais saviez-vous que cet individu-là, on se réjouit qu'il ait enfin eu une peine exemplaire de 25 années, mais il avait déjà été condamné à 2 ans de prison en 2018 pour agression sexuelle armée et voyeurisme sur une femme. 2 ans en 2018.
Si on considère qu'il y a eu une chance, là, en parenthèse, là, il l'avait perdu, sa deuxième chance. Il n'y avait pas possibilité que ça soit différent.
Il y a eu 2 ans et après ça, il a fait au moins 13 victimes.
Ouais.
Est-ce que c'est le devoir d'une société de dire sa sentence était de 2 ans, mais on doit la prolonger parce qu'il y a encore un niveau de dangerosité qui est trop élevé pour sortir? Moi, je pense qu'il y a une réflexion à faire sur cette espèce de cheminement-là. Que les gens qui méritent une deuxième chance l'obtiennent, j'ai pas de problème avec ça. Là, dans un cas comme celui-là, on parle d'un récidiviste qui a fait 13 victimes supplémentaires.
Sortez-le pas après 2 ans, 3 ans, si t'sais...
Quand bien même qu'il commence le chemin de la repentance, là, il est peut-être un peu tard là, pour lui faire confiance.
Mais les discussions, puis il y a des auditeurs qui le disent, ils disent même avec mes fils, j'ai peur des fois de pas être assez clair. Puis en passant, ça peut être dans les deux côtés. Là.
Oui.
Une femme aussi peut abuser un homme, puis on en a vu, puis il y en aura toujours. Là. Mais des fois, c'est un peu différent là, dans les schémas qu'on voit en cours. Là. Beaucoup de manipulation psychologique aussi là-dedans. Mais ils ont peur parce qu'ils se disent, j'ai bien beau parler avec mon fils... J'ai l'impression qu'ils sont conscients peut-être pour certaines femmes, leur sœur, leur mère, ça vient les toucher, ils vont être conscients de ça. Mais une fois dans l'envie, là, est-ce qu'ils vont être capables de se rappeler cette éducation-là? Puis là, c'est pas des auditeurs en passant qui accusent leurs enfants d'être des phénomènes comme Modéry, là. Pas du tout, des criminels dans ce cas-ci. Là.
Non, mais on a toujours peur. Tu sais, tu te dis, on donne le bon bagage, on donne la bonne éducation, on donne les bons outils, mais on peut pas prendre les décisions à la place de nos enfants, de nos ados qui sont appelés à devenir adultes. On essaye de leur donner le plus possible. On essaye de leur inculquer le plus possible. Moi, j'utilise toujours la même image. Idéalement, j'aimerais ça que mes enfants soient pas mal meilleurs que moi et qu'ils apprennent des choses bien avant que moi, je les ai apprises dans la vie. Mais on peut pas, tirer sur une fleur pour la faire pousser plus vite.
Pour l'arroser puis attendre.
C'est ça, c'est ça. Puis je comprends le doute, je comprends les questionnements parce que c'est le cauchemar de bien des parents, à un moment donné, d'ouvrir le journal puis de voir que ton enfant a commis un crime, a fait quelque chose de terrible.
Puis c'est quoi le pire, Denis? Mm. Que ton enfant soit victime ou que ton enfant soit criminel là-dedans?
J'aurais beaucoup plus de facilité à accompagner un enfant victime qu'un enfant criminel. Puis je comprends les défis, puis je comprends que c'est terrible. C'est un choix terrible là, que tu nous proposes.
Oui, non,
là,
c'est pas
passant.
La facilité. Là, c'est pas quelque chose que tu veux avoir à choisir.
Là,
mais psychologiquement, c'est intéressant de se poser la question. T'sais.
Prenons l'exemple. On vient toujours un peu drôle quand, par exemple, les parents d'un meurtrier sont au palais de justice pour appuyer leur fils ou leur fille. Les parents d'un violeur, par exemple, qui sont là. Pis...
C'est vraiment un appui, tu sais?
Non, mais c'est
une présence.
Oui, puis c'est une présence, mais en même temps, quand tu décides d'avoir des enfants, à quelque part, t'es supposé d'être là dans les meilleurs moments, mais t'es supposé d'être là dans les pires moments aussi, puis c'est jusqu'où qu'un parent se dit « je continue à m'impliquer, puis être là » pour mon enfant, puis c'est pas des questions évidentes à répondre. Je pourrais bien caller une shot à l'avance puis dire « Oh, ben moi, si mon enfant commet un crime, c'est sûr que j'irai pas le chercher en prison. » Tant que ça arrive pas, je pense que tu sais pas comment tu vas réagir. Puis encore une fois, je pense que 90 % des parents font leur gros possible, essayent de prendre les bonnes décisions, mais t'es jamais sûr à 100 % du chemin que tu prends.
T'sais. Parce que tu te poses tout le temps la question « Hey, avoir une fille, mettons, toi, t'en as pas de fille. » Comment je réagirais? Je pense que ça serait pire. Je suis comme chanceux, je suis content d'avoir des gars pour...
Je serais mort du cœur déjà si j'avais des filles.
Puis en même temps, tu peux mourir du cœur de ne pas avoir bien éduqué tes enfants ou qu'ils se ramassent entre les griffes de certaines mauvaises fréquentations, fassent des choix, que ce soit le crime organisé, qu'on voit des jeunes finalement qui viennent aussi de bonnes familles pour certains, prendre de mauvaises directions. Jacinthe-Ève, t'as les deux. Qu'est-ce qui a été pire? Parce que là, t'es à la croisée de la majorité pour la majorité de tes enfants aussi, là. Tu l'as fait, ce travail-là. Après, majeur et vacciné, ça existe. À 18 ans, tu finis pas d'être parent, mais quand même.
Ma fille, à l'adolescence, à un moment donné, est partie en voyage en Grèce. Elle est sur une île grecque, une île paradisiaque grecque. Et elle se chicane. Elle était plus jeune là, que maintenant. Elle était vraiment une adolescente. Elle se chicane avec son père et elle décide de fuir sa supervision. Et elle part toute seule sur une île en Grèce.
On apprend à s'affirmer.
Elle fait une espèce de petite mini-fugue. Là, c'est pas une fugue parce qu'elle retourne sur le bateau de croisière où ils étaient. Mais quand même, elle part toute seule sur cette île en Grèce et lui m'appelle « J'ai perdu notre fille, on s'est chicané, elle est partie ». Et à son retour de la Grèce, j'ai assis ma fille dans le salon et j'ai dit « On va écouter un film ensemble ». Et on a écouté le film « L'enlèvement ».
C'est
Taken.
Oui, parce que « My Big Fat Greek Wedding », c'était peut-être pas le bon lien à faire. <là, t'sais. rire>
Taken, le film « L'enlèvement » avec Liam Neeson qui se fait kidnapper sa fille, sa fille se fait droguer à son insu et se fait violer. je trouvais qu'elle était un peu jeune pour ces images et pour cette histoire, mais je me suis dit « C'était assez grande pour avoir fait ça. » C'est assez grande pour voir à quoi tu risquais de t'exposer. Et récemment, elle me disait « Hey, tu devrais faire écouter le film Taken à mes frères.
Okay. »
Ils sont rendus là. Elle dit « Ça serait intéressant qu'eux aussi l'écoutent. » Donc, ça l'a marqué et ça a eu l'enseignement que je souhaitais que ça ait dans sa tête.
Tant mieux, parce que là, maintenant qu'elle est à 18 ans, j'aurais été obligé de te recommander des films qui passent le même message, mais peut-être un peu plus rough. Puis recommander à ses enfants d'écouter Hostel 1 et 2, je suis pas sûr que c'est nécessairement une bonne chose.
Ouais, ça, c'est mes collègues un peu gossants. Là. Quand je partais en voyage tout seul en Europe, la seule chose qu'ils disaient, c'est on va être cherché, mais on saura pas trop trouver une fois que tu vas être agressé et enlevé.
Des histoires d'horreur. Là.
Mais c'est particulier. Puis en même temps, tu veux pas faire peur à tes enfants. Tu veux pas mettre d'idées dans la tête de tes enfants. Tu veux pas faire germer quelque chose qui va les empêcher d'agir puis d'aller de l'avant. T'sais, la peur peut être un bon motif pour être sur ses gardes, être sécuritaire, mais ça peut freiner aussi. Ça doit être tough comme parent, puis ça nous est donné. Je veux en parler, mais en même temps, je veux pas faire paniquer mon enfant. Je veux pas l'exposer à quelque chose qui finalement va l'empêcher à aller plus loin dans la vie.
Puis on peut être des fois très directif. Quelqu'un va venir te raconter ses problèmes de parenting. Puis là, tu dis, ah, mais ça, fais ça, fais ça, dis ça, dis ça. Puis tu vas te retrouver exactement dans la même situation avec tes propres enfants. Puis là, soudainement, tu découvres plein de nuances et plein de doutes que tu n'as pas quand tu parles de quelqu'un d'autre. Mais là, maintenant, c'est dans ta cour. Puis là, c'est beaucoup plus difficile de prendre une décision, de caller la bonne shot. En tout cas, moi, personnellement, c'est peut-être... Tu sais, prendre une décision pour soi, c'est une chose. Prendre une décision ou caller des shots pour ses enfants, alors que c'est eux autres qui vont subir les bons ou les mauvaises conséquences de ce que toi, tu vas décider, je trouve ça excessivement difficile. Parce qu'il y a toujours une part de doute.
Oui, absolument. Ouais. Et moi, j'ai moins peur. Tu dis, Pascal, il ne faut pas non plus les traumatiser. Mais on n'a pas le choix. On vit dans un monde où les pires traumatismes arrivent. Ouais. Arrivent pas juste dans des scénarios de films. La réalité, elle est troublante, choquante, épouvantable parfois pour certains humains. Alors, on n'a pas le choix d'aborder ça. Et justement, moi, j'étais allée loin là, dans mon discours qui accompagnait à l'écoute de ce film-là en disant, elle me dit, mais je suis capable de me défendre, tu le sais, j'ai du caractère, je suis capable d'identifier les menaces. Et là, ben, il a fallu que j'aille plus loin. Puis j'ai dit, non, mais je vais t'expliquer, là, ils peuvent se mettre en gang. C'est tous tes orifices qui sont menacés. Je suis allée loin, mais elle me regardait avec des yeux terrifiés. Mais j'ai dit, je vais te la terrifier pour toujours.
Mais c'est parce qu'arrive...
Non, mais il le faut les sortir parfois de leur naïveté, de leur innocence.
Qu'on essaye de leur garder
le plus cruel au monde peut arriver. Ça arrive. Ça n'arrivera jamais à toi, je te le souhaite jamais. Mais ça arrive à des femmes sur cette terre, à des jeunes filles sur cette terre aussi.
Parce qu'on essaye des fois de les garder justement dans un monde pur et beau le plus longtemps possible. Mais arrivent des événements comme ceux-là où tu es obligé de péter la bulle et de dire « Voici la triste réalité de notre monde.
» Je dois dire que je suis d'accord avec vous parce qu'en voyage, je pense que cette genre de paranoïa-là que j'ai développée là, en ayant voyagé jeune puis qui nous mettait... partir avec une vingtaine d'enfants d'à peu près 14-15 ans en Tunisie dans le temps. Moi, je sais pas comment mes parents ont fait pour dire oui à ça. Là. Avec l'école, ça s'est super bien passé, mais a fait en sorte qu'on était... très préparé, trop préparé. Puis je pense que ça a mené sûrement à de l'hypervigilance parfois, mais à beaucoup aussi de protection et à mener des choses qui se sont passées très, très bien par la suite. Mais en même temps, on est toujours à risque. Les commentaires pleuvent. 88-971-1021 encore sur Twitch. Vous avez des choses à raconter, à dire, à confier. N'hésitez pas, on vous lit pendant le bloc publicitaire. On est avec vous. Gravel, tu reviendras là-dessus si tu veux dans ton retour qui était à 14h. Mais merci d'avoir été là dans le pit stop. Puis on te souhaite, je ne sais pas moi, quelqu'un qui passe en studio qui te fasse autant perdre tes moyens que Jonathan Roy avec Audrey Pinchot hier.
Ça arrive fréquemment. J'ai peut-être un meilleur poker face, mais pas tant que ça.
Bon, on veut des noms. Salut, Dan, merci
beaucoup.
Bye.
Bye, Dan.
Gravel, dans le retour.